France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Spinoza à la loupe. C'est notre programme cette semaine, explorer cette œuvre philosophique majeure. Ce matin, le bien et le mal, selon Spinoza. On a parfois dit que la philosophie de Spinoza réfutait les notions de bien et de mal. Il arrive même qu'on accuse Gilles Deleuze d'avoir favorisé une lecture tout à fait relativiste de Spinoza, lecture qui aurait fait de Spinoza, selon Deleuze, le précurseur de Nietzsche, auteur de « Par-delà le bien et le mal » en 1886. Alors, l'honnêteté vis-à-vis des auditeurs m'oblige à dire que je n'ai jamais vraiment cru à ce supposé relativisme, ni chez Spinoza, ni chez Nietzsche. Et il n'y a qu'à lire le livre de Deleuze sur Nietzsche, paru en 1962, pour constater que Deleuze ne fait guère de Nietzsche un relativiste. L'inversion des valeurs, comme il le disait, Nietzsche, opérée par lui, dénonçant la morale des faibles ou moraline, conduit Nietzsche à valoriser des attitudes qui disent oui à la vie contre celles qui lui disent non, et d'une certaine façon, c'est là le bien et le mal selon Nietzsche, même s'il n'emploie pas ces mots. Bref, nous allons entendre Deleuze ce matin dans cet épisode de notre série sur Spinoza. Deleuze qui parfois s'emballe dans ses cours, c'est indéniable. Mais je ne voudrais pas que l'émission d'aujourd'hui apparaisse comme une pure réponse à Deleuze, risquant de simplifier et Deleuze, et Nietzsche, et Spinoza. Qu'a dit exactement Spinoza sur le bien et le mal ? Spinoza, qui a connu la violence des hommes, a commencé par celle de sa communauté juive d'Amsterdam, qui l'a banni à vie. Et Spinoza, qui fait nettement la différence dans le traité théologico-politique en particulier, entre l'état de servitude et l'état de liberté politique. Bonjour Paul Ratto.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en philosophie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste de philosophie moderne. Vous avez publié sur Hobbes, sur Leibniz, vous êtes déjà venu sur Leibniz dans cette émission, et spécialiste de Spinoza. Je signale votre récent ouvrage paru chez Vrin, Spinoza, une pensée par-delà bien et mal, point d'interrogation, et je sais que ce point d'interrogation dit avec force votre refus de l'idée d'un Spinoza purement relativiste. Pascal Gillot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences de philosophie à l'université de Tours. Vous travaillez sur les figures du sujet et de la subjectivité dans la philosophie moderne et contemporaine. Vous avez publié sur Descartes, Wittgenstein, Althusser et Spinoza. Les références précises de vos travaux comme des travaux de Paul Ratto figurent sur notre site. Alors, hier, dans notre premier épisode de cette série sur Spinoza, nous avons évoqué ce que celui-ci entend par « erreur », à savoir une insuffisance d'information et un jugement sans doute ne prenant pas en compte cette insuffisance. Je voudrais vous demander, pour commencer, si ce n'est pas cette insuffisance de connaissance aussi qui produit des jugements moraux inadéquats. Écoutez cet extrait du film « L'auberge rouge » réalisé par Claude Antan-Lara en 1951. Ce n'est pas l'histoire globale du film qui nous intéresse ce matin, c'est ce dialogue précis entre un moine et une jeune fille qui est en train de le faire chavirer.
Vous venez chercher vos souliers ?
Non.
Parce que j'ai des cachets. Venez, ils sont dans la grange.
Bon Dieu qui nous a amenés ici.
Vous parlez toujours du bon Dieu. Et si c'était le diable?
Oh. Le diable ou le bon Dieu, ça m'est égal.
Vous iriez en enfer avec moi, petit moine?
Oh. Tout de suite.
Pas tout de suite, mais un jour.
J'irai en enfer avec vous. Et ça ne sera pas l'enfer.
Si le bon père vous entendait.
Oh, pauvre père, je ne lui dirai pas comme ça. Ça lui ferait trop de peine.
Qu'est-ce que vous lui direz?
Je lui dirai, mon père, excusez-moi. Mais quand j'ai voulu me faire moine, je ne savais pas que je rencontrerais Mathilde. Je ne savais rien. Et maintenant, j'en sais trop long pour être moine. Le plus savant des moines, il en sait moins long que moi.
Il en sait plus, ce moine, au moment où il rencontre Mathilde, cette jeune fille qui le séduit tout à fait. Selon ce qu'on connaît, on change peut-être d'avis sur ce qui est moralement bien. Le moine acceptait d'être abstinent en fonction du savoir qu'il avait au moment de ses vœux. Il ne peut plus l'être quand il connaît, quand il découvre cette femme. C'est intéressant, Pascal Gillot. Peut-être que c'est une entrée dans Spinoza. Peut-être que c'est un défaut de savoir qui nous fait faire des erreurs, mais qui nous fait faire aussi des erreurs morales.
Oui, absolument. L'extrait est tout à fait remarquable à cet égard. Et en même temps, peut-être qu'on peut le lire à l'envers aussi, oui. Si on songe au processus de l'éthique et à cette extraordinaire tension qui se joue entre deux conceptions du bien et deux conceptions du mal. Parce qu'il y a une première conception du bien comme relatif, lié à un défaut de connaissance. Et puis il y a le verum bonum, le vrai bien, qui est lié justement à l'amour intellectuel de Dieu.
Donc il faut de l'intellect et du savoir pour approcher cette chose-là.
Peut-être bien. Que la question du vrai bien, qui n'est pas le bien avec un grand B, avec un B majuscule, peut-être que ça demande un travail du divin, oui. Qui n'est pas ce à quoi est assigné le moine dans l'institution religieuse, mais qui engage peut-être un rapport à un dieu des philosophes qui n'est pas le dieu des croyants. C'est ça que cet extrait est tout à fait oui. remarquable.
Alors il est vrai que j'ai laissé dans ma question le problème du dieu personne, du dieu du moine. Mais d'ailleurs on sent bien que dans leur discussion c'est plus le sujet d'ailleurs. Il se demande lui-même si ça existe encore, si c'est le diable, le moine. Donc, d'une certaine façon le dialogue ne l'invoque pas directement dans l'évolution du jugement et du désir. Paul Ratto, qu'est-ce que ça vous inspire, ce qu'on vient de dire là avec Pascal Gillot sur cet extrait ?
Mais écoutez, moi ce que cet extrait m'inspire, si je puis dire, c'est que, au fond, il est bien clair pour Spinoza que la libération à laquelle il nous invite et qui est au fond tout le travail depuis le traité de la réforme de l'entendement qu'il opère, c'est au fond de nous libérer des préjugés, nous libérer aussi, alors pas des passions parce qu'il s'agit pas d'éradiquer les passions, mais en tout cas d'arriver à sortir de cet état de servitude qui nous caractérise fondamentalement. Et cet état de servitude, c'est le fait que nous sommes dirigés par nos affects et que nous ne relevons pas véritablement de nous-mêmes, nous ne nous appartenons pas. Et la connaissance, au fond, la connaissance, ça doit nous émanciper. C'est-à-dire comprendre les causes de ce qui se produit et des motifs qui peuvent bien nous agiter et faire précisément que nous ne sommes pas véritablement ou complètement l'auteur de nos actes, ou plus exactement les actes que nous produisons ne visent pas véritablement à notre épanouissement, à la réalisation de notre être, mais plutôt lorsqu'ils sont conduits par des passions dites tristes, ce que Spinoza appelle des passions tristes, c'est-à-dire tout ce qui relève de la jalousie, de la haine, de la colère, nous porte pas vers l'affirmation de notre être, de notre puissance, au déploiement véritablement de ce qui permettra de nous réaliser en quelque sorte. Et la connaissance, elle doit nous aider à cela, même si évidemment la seule connaissance ne suffit pas. Il faut que l'affect lui-même soit à son service, c'est-à-dire que la raison qui nous guide, puisque c'est l'horizon, vivre selon les préceptes de la raison, c'est pas une raison, je dirais, pure de tout enracinement dans l'affect, c'est-à-dire dans la joie, dans la bienveillance. Ce qui est évidemment un travail extrêmement difficile. Évidemment, c'est un programme que j'énonce comme ça, qui peut paraître facile à énoncer, mais qui demande une vie entière.
Hein. Alors, vous avez l'air de dire exactement comme Bernard Potra hier, éditeur des œuvres complètes de Spinoza, que cette œuvre, on l'étudie toute une vie, c'est son cas. Vous avez étudié aussi d'autres auteurs, Paul Ratto, et que ça nous change, ça nous fait comprendre des choses intellectuellement, mais ça nous change profondément dans le rapport, par exemple, à certains affects. Et c'est un éducateur complet, Spinoza. Est-ce que vous avez l'impression que ce moine, dans l'extrait du film Le Berger Rouge, Pascal Gillot, sans le savoir certainement, apprend à se méfier moins de certains affects, voire à y voir quelque chose de tout à fait acceptable, à savoir le désir sexuel pour une femme ici découverte. Est-ce que vous avez l'impression qu'en effet, cela illustre que pour Spinoza, c'est changer la vie qui compte lorsqu'il nous parle?
Ah oui, absolument, changer la vie, puisqu'il me semble d'ailleurs que cette question très compliquée du statut du bien et du mal, de leur distinction, de leur relativité ou de leur absoluité, elle est indexée pas seulement à une morale, mais à une politique. Puisque lorsqu'il est question du vrai bien, Spinoza évoque la nécessité d'un travail commun de la rationalité, cum alis, avec les autres, et avec beaucoup d'autres, et avec beaucoup d'autres individus, et il importe à mon bien et à mon bonheur qu'ils pensent avec moi. Alors, pour revenir à l'histoire du moine, qui est tout à fait édifiante et charmante aussi, on pourrait se dire, et voilà, il découvre la joie de l'affectivité, de l'amour pour une chose singulière, une femme, et il se détourne de la tutelle théologique, et on peut se demander si on peut pas faire une lecture inverse, si on reprend les textes de Spinoza terrible, qu'évoquait aussi Paul Rateau, la servitude humaine, c'est la mécanique infernale des affects, qui sont presque tous terribles, jusqu'à ce qu'on arrive à un salut qui est un affect, certes, il faut de l'affect, mais c'est l'amour intellectuel de Dieu, ce qui est terriblement austère.
Oui, est-ce que vous voulez dire que ce moine, il était certainement, alors pour Spinoza, il n'y a aucun doute, dans la servitude en devenant moine.
Mais
il
aussi,
change par, peut-être qu'il sera dans la servitude en laissant parler un affect.
Il ne va pas quitter une servitude pour une libération, puisque il y a des pages terribles de Spinoza, terribles. Contrairement au portrait du Spinoza, vive la vie comme ça, ou les affects. Quelle vie? La vie de l'esprit, oui. Mais l'amour sexuel, l'amour charnel pour une femme, qui engendre la jalousie et qui fait que la joie se renverse en son contraire, ça peut être absolument terrifiant. Et donc le salut, c'est réenchaîner, non certes pas éradiquer les affects, mais essayer de les réenchaîner selon un ordre pour l'intellect. Alors ce pauvre moine, peut-être qu'il est dans cette direction, mais il va falloir qu'il travaille beaucoup.
Vous touchez un point important sur lequel nous reviendrons dans la quatrième émission consacrée à Spinoza dans cette série, jeudi, qui est que cet homme qui a souhaité qu'on ait un rapport non immédiatement moral aux affects, il faut voir ce qu'ils donnent, s'ils correspondent à quelque chose, alors vous m'expliquerez, hein, qui est rationnellement bien au sein du monde, de la nature, de la raison, voilà, on va réfléchir à tout cela. En tout cas, ce Spinoza-là, qui nous libère quand même de certains affects mauvais, qui ne sont pas forcément mauvais, nous libère de l'erreur en ne portant pas de jugement moral dessus, ce Spinoza-là restera toute sa vie extrêmement méfiant envers les femmes.
Ah oui, d'où ces pages terribles, il faudrait retrouver le passage précis qui est dans l'éthique 4 et qui décrit justement ce dispositif d'assujettissement épouvantable qui peut lier une chose singulière à une autre chose singulière sous l'imaginaire. Parce qu'il y a toute la question aussi de l'imagination qui fait qu'on tombe amoureux, ou qu'on entre dans une relation spéculaire, narcissique, limitation des affects. Et moi, il me semble clair, c'est une lecture possible, ces grands textes qui donnent lieu à tant de lectures possibles divergentes, mais il peut sembler que tant qu'on reste sous l'imaginaire ou ce que Spinoza appelle le premier genre de connaissance, qui inverse l'ordre des causes, nous sommes assujettis. Et que la relève de l'amour, c'est l'amour de Dieu.
Alors, ces problèmes, que valent les affects sur le plan moral? J'ai dit qu'il nous libérait tout de même de certains jugements préconçus, mais il en garde d'autres sur les affects sexuel, par exemple, dont il se méfie beaucoup. Évidemment, ça produit plusieurs lectures. Donc, je sais, Paul Rateau, que vous avez envie de dire que Deleuze a favorisé une lecture relativiste. J'ai dit ce que j'en pensais. Mais je vous donne, en cadeau, un moment Deleuze dans un cours où vraiment, on a l'impression que pour lui, Spinoza, c'est celui qui est parfaitement relativiste et qui abolit les notions de bien et de mal. Écoutez.
Une race de philosophes étranges, ils nous disent quoi? Ils nous disent, oui, d'accord, le mal n'est rien. Ils ajoutent, très vite, pour pas trop se faire entendre, ils ajoutent, parce que le bien non plus. En d'autres termes, le mal n'est rien, bien sûr, puisqu'il n'y a ni bien ni mal. Oh, mais alors ça rebondit, qu'est-ce qu'ils veulent dire cela? C'est des fous complets, quoi, il n'y a pas de bien ni de mal. Alors quoi, assassiner les gens, on peut y aller. Donc Spinoza se sert, il est très sournois, Spinoza, vous voyez, dans sa loyauté philosophique, dans sa grandeur, il est... Il parle comme tout le monde pour dire quelque chose de complètement différent. Le mal n'est rien, oui, mais moi je suis l'homme qui vous annonce qu'il n'y a ni bien ni mal, et c'est pour ça que le mal n'est rien. Et là encore, longtemps après, ce sera repris par quelqu'un qui intitule un de ses livres principaux « Par-delà le bien et le mal ». Il lance cette formule qui pourrait, ben je vous jure, à la lettre, qui pourrait être signée Spinoza, qui est « Par-delà le bien et le mal, comprenez qu'il n'y ait pas plus de bien qu'il n'y a de mal, cela du moins ne veut pas dire « Par-delà le bon et le mauvais ».
Quand même un bémol à la fin, mais incontestablement, Paul Rateau, cet extrait, où d'ailleurs on entend un Deleuze délicieusement cabotin, il faisait court quand même, avec beaucoup de malice et de provocation, mais ça vous donne tout à fait raison, là, il semble appuyer sur le Spinoza pour lequel le bien et le mal n'existeraient pas.
Alors, je ne sais pas si Spinoza est sournois, mais Deleuze, s'il l'est, Deleuze l'est aussi un tout petit peu, manifestement dans l'extrait que l'on vient d'entendre le montre, dans la mesure où dire que bien et mal sont relatifs, il faut en fait savoir ce qu'on entend par relatif. C'est-à-dire que effectivement, bien et mal sont relatifs dans la mesure où ils impliquent une relation.
Pour Spinoza.
Pour Spinoza, ce sont des êtres de relation, bien et mal, dans la mesure où bien et mal ne sont pas des propriétés des choses, ne sont même pas des choses comme telles. C'est-à-dire qu'ils n'existent que dans la relation que j'ai avec un objet extérieur. C'est-à-dire, je suis l'exemple que prend Spinoza dans la préface d'Éthique 4. Il dit, voilà, la musique... Elle produit un certain plaisir au mélancolique. Elle produit une insatisfaction, une douleur chez celui qui est affligé, et elle est indifférente chez le sourd, puisque le sourd, évidemment, la musique n'est ni bonne ni mauvaise pour le sourd, mais elle est bonne pour le mélancolique parce que ça apaise sa douleur, et pour celui qui est affligé, elle est pénible à écouter. Bon. Donc, autrement dit, la musique en elle-même n'est ni bonne ni mauvaise. Le bien et le mal sont dans la relation entre l'état de l'âme du sujet et les caractéristiques objectives de l'objet avec lequel je suis en relation. Donc si on supprime l'un des deux termes, le sujet ou l'objet, disons, eh bien le bien et le mal disparaissent. Donc bien et mal consistent dans cette relation, sont impliqués par cette relation. Donc de ce point de vue-là, nous avons, si je puis dire, trois relativités, c'est-à-dire que le bien et le mal sont relatifs l'un à l'autre, l'un se définit par l'autre, et notamment le mal par rapport au bien. Bien et mal sont variables dans la mesure où, selon mon état, c'est-à-dire si le mélancolique guérit de sa mélancolie le rapport qu'il va avoir à la musique va être différent, et le sourd pour lequel le bien et le mal, la musique n'est ni bonne ni mauvaise, s'il se met à entendre, eh bien, d'indifférente qu'elle était, elle va devenir bonne ou mauvaise. Donc, cette relativité-là, elle permet de considérer que il n'y a pas de bien et de mal absolu, c'est-à-dire dans les choses mêmes. Que le mal n'est rien veut dire... Alors c'est là une ambiguïté dans la bouche de Deleuze, parce que dire que le mal n'est rien, c'est une vieille thèse augustinienne qui consiste à dire que il n'y a pas de consistance ontologique au mal, c'est-à-dire qu'il n'est pas une substance, il n'est pas un être. Ça vient d'Augustin, contre les manichéens, qui établissaient une substance du mal opposée à une substance du bien, ou un principe du mal à un principe du bien. Mmh. Donc de ce point de vue-là, lorsqu'il dit que bien et mal ne renvoient pas à un être des choses, il a raison. Cela dit, cette critique des notions de bien et mal qui ne renvoient pas à une propriété des choses ne veut pas dire que Spinoza lui-même au début de la quatrième partie de l'éthique dans la préface, va, après avoir critiqué ces notions, puisqu'il ne faut pas les substantialiser, affirme qu'il faut les réhabiliter. Il faut réhabiliter.
Donc il y a un double mouvement. Voilà, parce qu'il détruit une vision. Alors, si c'était Nietzsche, on dirait la moraline détestable des êtres vulgaires. Bon, il dirait sans doute être vulgaire, Spinoza. Il y a une vision première, idiote du bien et du mal, qui en fait correspond à des jugements bon qui sont d'ailleurs contestables et qui sont en plus placés dans les choses elles-mêmes alors que c'est dans l'état du sujet qui perçoit. Mais bon, vous affirmez, de toute façon, moi je suis tout à fait d'accord avec vous et je pense pas qu'il faille tirer Deleuze trop loin dans la position opposée. Vous affirmez que après ce premier geste, il y en a un deuxième qui est de dire de son point de vue ce qu'est le bien et le mal.
Tout à fait. C'est-à-dire que bien et mal reçoivent une définition par la raison. C'est-à-dire qu'en fait, ce que nous enseigne Spinoza, c'est qu'en réalité, on ne peut pas faire l'économie de ces notions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser une morale sans un concept de bien et de mal. Mais ça ne veut pas dire que ce concept de bien et de mal sont absolus, renvoient à des réalités absolues. Ils restent relatifs, mais le bien va être défini comme ce qui est utile au modèle de vie que l'on souhaite réaliser, c'est-à-dire à cette émancipation dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que Spinoza veut dire, bon d'accord, il faut pas être dupe de ces notions de bien et mal, mais il faut les redéfinir rationnellement, parce qu'on en a besoin, on peut pas en faire l'économie, dans la mesure où sera considéré comme bien ou sera défini comme bien ce qui nous aide à réaliser cette émancipation morale et politique, comme le disait Pascal, qui est l'horizon de l'éthique, et sera déclaré mauvais ce qui y fait obstacle, c'est-à-dire tout ce qui vient accroître notre puissance d'agir, tout ce qui vient augmenter notre perfection, entendu comme ce qui vient aider cet effort de persévérer dans notre être, sera déclaré bon. Ce qui fait obstacle, ce qui limite, ce qui restreint cette puissance d'agir, sera déclaré mauvais. Mais ça ne veut pas dire que bien et mal, encore une fois, sont des réalités absolues, indépendantes de notre esprit, mais c'est simplement une valeur opératoire, si je puis dire, de ces notions. C'est-à-dire, pour réaliser cette libération que Spinoza, à laquelle il nous appelle, qui est à la fois morale et politique, eh bien, nous avons besoin de ces notions. Mais alors, sans en être dupes.
Je voudrais que Pascal Gillot nous donne sa lecture. Si vous me le permettez, je vais juste citer un tout petit peu Spinoza sur ce premier geste, qui est de détruire, en effet, les conceptions premières, trop simples, du bien et du mal. Dans une lettre fameuse, la lettre 23 de 1665 à Blyenberg, inutile, je ne vais pas donner trop de précisions sur Blyenberg, mais enfin c'est un penseur ami de Spinoza. Il dit, Spinoza, je crois avoir suffisamment montré que ce qui donne au mal, à l'erreur, au crime, leur caractère d'acte mauvais ou criminel et de jugement faux, ce qu'on peut appeler la forme du mal, de l'erreur, du crime, ne consiste en aucune chose qui exprime une essence. Et dans, il n'y a pas d'essence, c'est dans notre, comme vient tout à fait de le dire Paul Ratto. Et dans l'appendice à la première partie de l'éthique, publiée de manière posthume, il explique que le problème, c'est que persuader que tout ce qui se fait en vue d'eux, les hommes n'ont pu que juger principal en toute chose ce qui avait le plus d'utilité pour eux et estimer le plus excellent tout ce qui les affectait au mieux, d'où vint qu'il leur fallut former ces notions par lesquelles expliquer les natures des choses, à savoir le bien, le mal, l'ordre, la confusion, le chaud, le froid, la beauté, la laideur. Et tout cela, c'est quoi? C'est une illusion? Qu'est-ce que c'est? Comment vous l'expliqueriez, Pascal Gillot? Puisque là, c'est un mode critique que l'on lit sous la plume.
Absolument. Absolument. La critique est virulente concernant ces notions de bien, de mal, de confusion, on dirait imperfection ensuite. Mais alors, il faut situer aussi ces textes, c'est le début de l'éthique. C'est le fameux appendice du livre 1 qu'on commande beaucoup et qui est une critique dévastatrice du finalisme et de toutes les notions imaginaires que nous construisons spontanément parce que nous sommes tous spontanément ignorants. Tous, qui que nous soyons, vulgaires, non vulgaires. Ce qui est remarquable, c'est qu'après avoir détruit ces notions qui procèdent d'une inversion de la réalité, comme le libre arbitre ou l'illusion que tout a été créé en vue de l'homme, etc., ensuite Spinoza reprend en effet, comme le disait Paul Ratteau, ces notions de bien et de mal. Il reprend la notion d'ordre aussi, qu'il a absolument disqualifiée de façon retentissante dans l'ordre et la connexion des idées ou l'ordre géométrique. Alors il faut faire attention à des histoires de langage aussi et du rapport compliqué des philosophes au langage. Parce qu'en effet, il y a une tension entre cette critique terrible du bien et du mal comme transcendantaux. Les transcendantaux, ce sont ces notions universelles qui ne sont pas des concepts, parce que nous les produisons sous l'imagination. D'autres notions de bien et de mal avec un B minuscule ou un M minuscule, que vous évoquiez, Paul Ratteau, le bien existe. Le bien, c'est ce que je sais avec certitude nous être utile, et le mal, ce qui nous empêche. Donc il y a bien une récupération de ces notions, mais ces notions, elles sont retravaillées sous l'angle de la rationalité, de ce que Spinoza va appeler les notions communes, deuxième genre de connaissances, et il va les arracher à leur inscription imaginaire. Donc il y a une tension tout à fait intéressante dans le vocabulaire, mais ce qui nous laisse entendre aussi que jamais Spinoza n'abandonne la question du bien, ou du souverain bien, au contraire, si je puis dire.
Oui, et je vous entends quand vous dites qu'il n'abandonne pas non plus la notion d'utilité. C'est-à-dire que on en a parfois une approche vulgaire, fausse. C'est les définitions courantes du bien et du mal. Mais lui va quand même définir ce qu'il considère comme le bien, conforme à la raison, à la nature, etc., par cette catégorie d'utilité.
Absolument. Nous, à la notion d'utile.
Ça, et ça c'est quand même un problème, ça.
Sa définition adéquate. Mais non, c'est extraordinaire.
Alors, ce passage.
Ben, c'est le passage de la fausse morale ou de la moraline. Et Deleuze a une très grande lecture, bien sûr, de Spinoza, indépendamment d'un prisme relativiste. Bien sûr qu'il n'était pas relativiste. Moi, il me semble quand même, remarque, que Deleuze a vu magnifiquement la façon dont Spinoza, passant de la morale à l'éthique, oui, de la morale moraline transcendante à l'éthique fondée sur un certain travail commun, il a très bien vu qu'il y avait une différence immense entre le bien avec un grand B et le bonum avec un petit B. Et il me semble que ça, il faut le tenir, puisque c'est une façon de ne pas jeter par la fenêtre le bien et le mal. Ça, c'est ce qu'il écrit dans ses deux grands livres sur Spinoza, qui n'ont pas le même statut que l'archive
absolument
de cours que vous avez passé.
Vous. Je vois qu'on est tous d'accord.
Voilà, mais le nouage, j'y insiste deux secondes, le nouage du bien, du vrai bien, si je puis dire, sans B majuscule, et de l'utile, c'est fondamental.
Alors expliquez-moi ça.
C'est la façon dont on récupère le bien.
Pourquoi le bien, c'est ce qui nous est utile. Vous savez très bien, si j'ose dire, qu'il y a tout un ensemble d'auteurs en philosophie qui ne vont pas du tout de ce côté-là et qui considèrent que si on invoque la raison et si on parle au hasard d'Emmanuel Kant un siècle après Spinoza, la raison nous donne des interdits, des devoirs, des impératifs, et précisément qui nous sortent de l'enjeu de l'utile. Et le bien et le mal sont, si j'ose dire, par-delà la question de l'utile. C'est précisément en rompant avec la question de l'utile qu'on le trouve. Spinoza ne dit pas cela. Pourquoi ?
Il dit le contraire. Et pour autant, alors effectivement, nous sommes très très loin, par anticipation, d'une morale kantienne, de l'impératif catégorique, absolument. Et c'est ce qui a fasciné beaucoup de monde, et qui nous fascine aussi, ce rejet, cette critique radicale, justement, d'une morale indexée à la transcendance. En revanche, ça n'est pas non plus une perspective utilitariste que celle de Spinoza, lorsque, au début de l'éthique 4, quand on récupère, malgré tout, les vocables de bien et de mal, on va affirmer ce qui est bien, c'est ce dont nous savons avec certitude qu'il nous est utile. Mais cet utile n'est pas un utile pour moi seulement. Individu, c'est l'utile commun. Et ce sont ces grands textes de l'éthique 4 qui vont nouer l'éthique et la politique et qui vont affirmer que rien n'est plus utile à l'homme que l'homme. Nous naissons tous ignorants, malheureux, dans la servitude des affects, et pour sortir de cette asservissement. Il nous faut penser notre utile. Et penser notre utile, c'est vivre ensemble sous la conduite de la raison. Et
mais ce utile
sont les grands chapitres sur la vie rationnelle.
J'entends, mais utile à
nous sortir de l'ordre commun de la nature.
Mais je croyais qu'il fallait y entrer dans le grand ordre de la nature.
Ça, c'est une lecture. Alors, les lectures sont multiples. Il peut y avoir une lecture naturaliste de Spinoza. L'homme ne peut pas faire comme si il n'était pas, ou comme s'il était un empire dans un empire. Il ne peut pas se faire que l'homme ne soit pas partie de la nature. Alors, ce terme de nature, il est surdéterminé, très équivoque en réalité, puisque la nature, c'est Dieu. Ce n'est pas nécessairement le vivant ou l'environnement. Donc, c'est un concept très difficile à entendre. Mais en tout cas, dans les textes de Spinoza, ceux de Éthique 4 et de Éthique 5 qui nomment la libération à l'égard de la servitude des affects passifs, précisément, il y a une tension entre l'ordre de la nature, qui fait que nous sommes sous l'angle de la temporalité, de la finitude, et puis constituer une nature humaine plus forte.
Alors,
travailler la nature humaine plus forte, et c'est très intéressant parce que c'est la façon dont le jeune Spinoza, dans le traité de la réforme de l'entendement, va concevoir le vrai bien, c'est-à-dire travailler ensemble à notre utile commun qui est constituer une nature humaine plus forte et nous sortir de l'imbéquilitas originaire qui est la nôtre, qui est la faiblesse, l'ignorance dans laquelle nous sommes tous absolument pris.
Alors, comme j'ai du mal à comprendre le rapport à la nature dans cette histoire, à l'utile, et que nous sommes au cœur de notre sujet, le bien et le mal selon Spinoza, je vous propose d'écouter successivement deux textes que vous venez de citer. D'abord, ils sont assez courts, un extrait de la préface de Spinoza à la quatrième partie de l'éthique, et ensuite, texte dit antérieur de jeunesse auquel vous venez de faire référence, un extrait du traité de la réforme de l'entendement, désormais parfois appelé aussi traité de l'amendement de l'intellect dans la traduction de Bernard Potra, où dans ces deux textes, la question surgit. Écoutez.
En ce qui concerne le bien et le mal, il ne désigne rien de positif dans les choses, j'entends considérer en soi, et ils ne sont rien d'autre que des manières de penser ou notions que nous formons du fait que nous comparons les choses entre elles. Car une seule et même chose peut être en même temps bonne et mauvaise et également indifférente. Par exemple, la musique est bonne pour le mélancolique, mauvaise pour l'affligé, et pour le sourd ni bonne ni mauvaise. Quoi qu'il en aille ainsi, il nous faut pourtant conserver ces vocables. Car étant donné que nous désirons former une idée de l'homme à titre de modèle de la nature humaine que nous ayons en vue, il nous sera utile de conserver ces mêmes vocables dans le sens que j'ai dit. Et donc, par bien, j'entendrai dans la suite ce que nous savons avec certitude être un moyen de nous approcher de plus en plus du modèle de la nature humaine que nous nous proposons. Et par mal, ce que nous savons avec certitude nous empêcher de reproduire ce même modèle. Ensuite, nous dirons les hommes plus parfaits ou imparfaits en tant qu'ils se rapprochent plus ou moins de ce même modèle. L'homme est incité à chercher des moyens qui le conduisent à la perfection. Et tout ce qui peut être moyen d'y parvenir est appelé vrai bien. Et le bien suprême est qu'ils parviennent à jouir d'une telle nature avec d'autres individus si faire se peut. Quant à savoir quelle est cette nature, nous le montrerons en son lieu. C'est bien sûr la connaissance de l'union qu'a l'esprit avec la nature tout entière. Telle est donc la fin à laquelle je tends, acquérir une telle nature et m'efforcer que beaucoup l'acquièrent avec moi. C'est-à-dire il fait aussi partie de ma félicité de m'appliquer à ce que beaucoup d'autres comprennent la même chose que moi, pour que leur intellect et leur désir conviennent tout à fait avec mon intellect et mon désir. Et pour ce faire, il est nécessaire de comprendre de la nature juste autant qu'il suffit pour acquérir une telle nature. Ensuite, de former la société telle qu'il est à désirer, pour que le plus possible d'hommes y parviennent le plus aisément et le plus sûrement possible.
Acquérir ma vraie nature. atteindre l'idée de l'homme à titre de modèle de la nature humaine que j'ai en vue. Est-ce cela le bien pour Spinoza, Paul Ratto? Et si oui, qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, oui, c'est le bien. Et comme Pascal Gillot l'a indiqué il y a un instant, il y a au fond une ambiguïté du terme même de nature. C'est-à-dire, dans le texte de Spinoza, soit effectivement on considère la nature entière qui se confond avec Dieu même, soit on envisage la nature humaine qui est une partie de cette nature. Alors, ce qui de cette nature au sens général. Ce qui nous intéresse, nous hommes, c'est la nature humaine, c'est pas la nature dans sa totalité, c'est-à-dire comment faire en sorte, étant donné cet état qui nous caractérise d'impuissance, de faiblesse, de servitude à l'égard des affects, nous subissons l'influence des causes extérieures en permanence, et ces causes extérieures ne veulent pas notre bien, elles veulent leur bien à elles, c'est-à-dire c'est pour ça que nous sommes dans un état de servitude. L'esclave fait le bien de son maître, il fait pas son bien à lui. Et c'est ça que nous voulons faire. Enfin, c'est ça que Spinoza veut nous aider à faire, c'est-à-dire réaliser notre fin à nous, c'est-à-dire au sens du but de notre réalisation, faire notre bien plutôt que celui de notre maître. Et pour cela, il faut avoir en tête ce modèle de la nature humaine qui, effectivement, dans le traité de la réforme de l'entendement, est d'abord présenté comme une nature plus forte. Et dans l'éthique, dans la préface à la quatrième partie, comme un modèle que l'on se met devant les yeux, en quelque sorte, et qui représente ce que nous voulons être. Et qu'est-ce que nous voulons être? Quelle est cette nature humaine que nous souhaitons réaliser? Eh bien, c'est un homme qui, précisément, réalise véritablement son être, c'est-à-dire qui accomplit cette puissance d'agir qui le caractérise. Quelle est l'essence de l'homme pour Spinoza? L'essence de l'homme, c'est le désir. Cet effort de persévérer dans son être, pas simplement de se conserver au sens d'une sorte d'instinct de conservation face à un monde hostile, c'est pas ça. Où ça n'est qu'une version de ce qui caractérise fondamentalement l'homme. Ce qui caractérise fondamentalement l'homme pour Spinoza, c'est dans Éthique 3, les propositions 6-7, pardon. C'est véritablement cet effort qui nous caractérise, cet effort pour affirmer notre être, donc pas simplement le conserver, mais le déployer, l'épanouir. C'est-à-dire toute la puissance qui nous caractérise, la réaliser de la meilleure manière. Eh bien, au fond, l'imagination, les préjugés, l'influence des causes extérieures, les affects nous détournent de cette fin qui est la nôtre. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout ce qu'il appelle ces passions tristes, elles nous détournent de cette réalisation à laquelle nous devons tendre.
Alors, j'ai plein de questions.
Pardon. Oui, allez-y. oui.
J'en ai notamment une, mais je vais la...
J'imagine.
La faire un peu plus tard, cette objection, enfin, en tout cas la formuler un peu plus tard, cette question, parce que tout de même, je voudrais vous poser d'abord le même problème, Pascal Gillot. Qu'est-ce que c'est que cette nature humaine, que nous, ce modèle que nous serions censés, et peut-être d'ailleurs chacun différemment, vous me répondrez aussi, je ne sais pas trop, que nous sommes censés essayer de réaliser, sachant que, je me permets d'ajouter un point par rapport à la façon dont j'ai posé la question à Paul Ratto, il dit bien, Spinoza, dans le traité de la réforme de l'entendement, qu'il s'agit de parvenir à jouir d'une telle nature avec d'autres individus, si faire se peut. Donc on a presque l'impression que la question du rapport à autrui, en tout cas de... Oui, et deuxième, et non première, alors que dans beaucoup de morale classique, avant de penser à moi, je dois penser à l'autre. Voilà, je vous demande de nous expliquer parce
c'est un point très enchevêtré, nodal et décisif et qu'on ne pourra pas résoudre. Mais fort heureusement, puisque ça nous incite à relire ces textes et à nous poser cette question. Il me semble malgré tout que cette résurgence de la notion de modèle, elle est quand même très étrange dans la préface de l'Éthique, puisqu'il vient nous expliquer que la constitution de modèles parfaits, idéaux, ça ne va pas, il faut nous en débarrasser. Et puis ça ressurgit. Pourquoi? Pourquoi tout à coup ce modèle de la nature humaine qui, en effet, reprend le programme du jeune Spinoza dans le traité de la réforme de l'entendement, c'est-à-dire travailler à constituer une nature humaine plus forte ou moins misérable ou moins faible. Alors, bien sûr, pour le jeune Spinoza, il s'agit de moi, bien sûr. Bien sûr qu'il s'agit de moi, de ma vie, puisque
moi d'abord.
Je suis face à un danger mortel. Mais moi d'abord, justement, on va comprendre que moi d'abord, en réalité, c'est un nous. Et tout le passage peut-être de l'éthique, alors on le dit très vite, mais du premier genre de connaissance, l'imagination, c'est-à-dire l'ignorance en réalité, qui est ce qu'on pourrait appeler l'idéologie, à la connaissance rationnelle, c'est un passage du « je » au « nous ». D'où l'importance du syntagme ou du terme « nous ». Qu'est-ce qui est utile finalement pour l'homme qui essaie de se déprendre, ou du moi, qui essaie de se déprendre du piège mortel de l'affect ou de l'ignorance ? C'est comprendre précisément qu'il est un « nous » ou qu'il travaille avec tous les autres à ce que Spinoza appelle l'utile commun. Vous me demandiez qu'est-ce que c'est que l'utile commun ? Eh bien, qu'est-ce que c'est que l'utile ? Et chaque fois que Spinoza évoque l'utile, dans le TRE et surtout dans le traité de la réforme de l'entendement et dans l'éthique, il évoque le commun humain. Ce qui est utile, c'est justement que je ne sois plus sous l'obsession de l'affect, parce que l'affect, c'est de la discordance. Les affects passifs, c'est de la discordance, Spinoza l'écrit. Et ce par quoi nous pouvons convenir avec les autres, sortir de l'envie, de la jalousie, de la domination, qui est la vie affective aussi, eh bien, c'est travailler à cet utile commun et convenir avec les autres pour former, qu'est-ce que le je libéré ? C'est former avec les autres comme un seul esprit et comme un seul corps. Et là, je renvoie les auditeurs à la lecture du Scoli, de la proposition 18 de l'éthique 4, qui nomme justement cet effort pour convenir avec les autres et passer avec les autres de l'ignorance à une moindre ignorance. Et donc, c'est une libération commune. Et le « je » qui échappe au piège de la mort que décrit le jeune Spinoza, si je continue comme ça, je vais mourir. Donc, je fais le pari d'une vie de l'esprit. Eh bien, cette vie de l'esprit, elle est nécessairement indexée à la première personne du pluriel, à un « nous ». Donc, être un « je » adéquat, c'est se concevoir comme un « nous ». Et c'est la raison pour laquelle il me semble, plus je lis ces textes, mais il m'apparaît que l'alliance s'opère entre l'éthique de Spinoza, pour ne pas parler de morale, et la politique. Il me semble qu'on ne peut pas les dissocier, en réalité.
Alors maintenant, ma question que je n'ai jamais osé poser.
Allez-y.
Quelque chose que je ne comprends vraiment pas. Chez Spinoza, vous savez que ce qu'on n'a jamais osé demander, comme on disait d'ailleurs, il y avait un titre d'émission de France Culture. Voilà. Lorsque Spinoza dit « il faut persévérer dans son être, atteindre notre nature et les modèles corrélés », vous m'expliquez tous, les spinozistes, que Spinoza déteste le finalisme, c'est-à-dire l'idée que nous ferions des choses pour atteindre une fin rationnelle, qui est, au fond, nommons les choses. Il n'aime pas Aristote, qui a largement usé du modèle finaliste dans beaucoup de domaines, mais il n'y a peut-être pas qu'Aristote. Mais quand il dit persévérer dans son être, atteindre notre nature véritable, etc., mais qu'est-ce que c'est d'autre que du finalisme ?
Alors, disons que quelle est la fin de cet effort ? Quelle est la fin de cet effort de persévérer dans son être ? Ben, c'est l'effort lui-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de fin extérieure. C'est-à-dire que la critique du finalisme, elle est liée au fait que nous projetons dans la nature des fins qui ne s'y trouvent pas, nous attribuons à Dieu des intentions, la nature ne fait rien en vain, puisque c'est Aristote que vous évoquez, c'est bien la cible, mais la position de Spinoza, elle consiste à dire que l'homme se pose des fins, c'est un être qui se pose des fins, c'est-à-dire qui se pose des buts.
C'est la raison en lui, la nature qui les lui pose, non ? Quand on la comprend.
Mais véritablement, si on comprend ce conatus, c'est-à-dire cet effort de persévérer dans son être, qui est notre essence, et qui n'est rien d'autre que ce qu'il appelle le désir. C'est-à-dire, le désir, c'est cet effort en tant que j'en ai conscience. Mais que vise le désir ? Il vise le désir. Il ne vise rien d'autre que sa perpétuation. Il ne vise pas l'objet D'ailleurs, c'est pas sans lien avec une position qu'on trouve chez Hobbes en réalité, c'est-à-dire l'idée que cette idée qui est pour Hobbes comme pour Spinoza fausse d'une certaine façon, qui est que la fin au sens cette fois-ci du terme du désir, c'est une fois que je possède l'objet.
Vous voyez, mais en réalité, spontanément le mot fin vous vient à la bouche.
Mais justement la fin du désir au sens du terme
Spinoza,
et au sens de Spinoza, c'est l'entretien du désir, c'est-à-dire que la nature ne vise aucun but. Spinoza le répète à plusieurs reprises. Dieu ou la nature n'a pas de fin, n'a aucune intention, ne vise la réalisation d'aucun royaume sur terre, d'aucune perfection ou bien. Nous sommes une partie de la nature. Une partie de la nature. Donc, à ce titre-là, nous-mêmes, nous posons des fins, mais l'essence même de notre désir ne vise rien d'autre que sa propre perpétuation. C'est-à-dire que les fins au sens du but, le désir se veut lui-même. Et dans ce sens-là, on échappe à un finalisme qui serait quelque chose comme une réalisation définitive de quelque chose qui serait le bien atteint définitivement. Donc de ce point de vue-là, c'est pas du tout contradictoire de dire à la fois l'homme est cet être qui se pose des fins, qui se pose des buts, qui vise un certain nombre d'objectifs, dirons-nous, dans son existence, mais que fondamentalement ce qui l'anime, c'est rien d'autre que la perpétuation de son propre désir, ce qui fait que le désir est constamment relancé, il ne s'arrête pas, il ne se termine pas lorsque j'obtiens un objet, au contraire, l'obtention de cet objet et le moyen d'entretenir et de continuer ce désir. Et ce qu'il faut pour Spinoza, c'est orienter correctement le désir. C'est ça le but de l'éthique et aussi de la politique. C'est comment orienter correctement le désir pour qu'il ne soit pas, d'une certaine façon, mal engagé ou qu'il rate son but. Et c'est ce que je fais lorsque je suis affecté par des passions tristes. Lorsque je suis travaillé par la colère, l'envie, la haine ou tout ce que vous voulez, tout ce qui relève de passions tristes, en réalité, je passe à une perfection moindre. Je suis affecté par des choses qui diminuent ma puissance d'agir, qui restreint ma capacité à faire et à faire avec, évidemment, les autres, puisque, comme l'a rappelé Pascal Gillot, c'est dans Éthique, dans les propositions 35-37, il n'est rien de plus utile à l'homme que l'homme.
Alors, justement, Pascal Gillot, à vous, qu'est-ce que ça veut dire orienter bien son désir? Je crois que je vous cite Paul Ratto correctement, adéquatement, éventuellement corriger, si ce n'est avoir une vision de la fin, FIN, de la finalité, et une vision de la nature à laquelle doit correspondre mon vrai et juste désir, mon conatus, comme dit Spinoza. En quoi ça, ce n'est pas du tout du finalisme? Comment l'expliqueriez-vous? Et par ailleurs, au passage, comment peut-on se corriger si nous ne sommes pas libres?
Alors, vous posez aussi toute la question de la finalité de l'éthique, finalement. Pourquoi Spinoza a-t-il écrit l'éthique pour arriver à cette étonnante partie de l'éthique avec laquelle beaucoup de spinozistes sont embêtés, de libertate humana, de la liberté humaine, c'est-à-dire de la puissance de l'intellect. Et là, nous sommes dans la métaphysique et il est question de la vie éternelle. Pourquoi Spinoza écrit-il l'éthique? Pour nous libérer. Donc il y a bien, à mon sens, peut-être que je serai un peu en désaccord avec ce qu'a dit Paul Ratto, il me semble qu'il faut distinguer la grande critique spinoziste, mais qui est cartésienne aussi, du finalisme dans l'ordre de la science, les lois de la nature, Spinoza est galiléen, donc la physique aristotélicienne, tout ça doit être rejeté, bien sûr. En revanche, Spinoza n'est pas un nécessitariste absolu. Sinon, il ne porterait pas une éthique et une politique. Sinon, il ne serait pas question de nous libérer de ce qui nous entrave, parce que nous sommes tous spontanément sous l'affect et ignorants. Par conséquent, il me semble qu'avec cette histoire de modèle de la nature humaine, Spinoza nomme un programme qui est celui, en effet, de la réorientation de la cupiditas, du désir, qui est l'autre nom du conatus, en effet. Et que devient le vrai désir et le vrai conatus en éthique 4 et éthique 5 qu'il ne faut pas oublier lorsqu'on va essayer de travailler à se rendre éternel malgré tout, hein, il faut se souvenir de ça. Eh bien, le désir va devenir désir de connaître. Le vrai désir et même l'essence de notre esprit, ce sera désir de connaître, conatus cognoscendi, conatus intelligendi. Et là, il n'est plus question du désir qui se veut lui-même dans une perspective qu'on pourrait dire vitaliste pour aller très vite. Là, il y a vraiment un programme politique. Et moi, il me semble que quand il évoque le modèle de la nature humaine, il fixe un programme. Et un programme, c'est une forme de finalité. C'est vraiment travailler ensemble, perficere intellectum, travailler tous ensemble à penser pour nous libérer. Et nécessairement, à ce moment-là, ça c'est une tension intéressante du spinozisme, il y a quelque chose comme une finalité. Sinon, il ne réintroduirait pas le vocabulaire de l'exemplaire, du modèle. Alors lui, ça ne lui pose pas de problème parce qu'il se méfie des termes et puis, comme Descartes, il peut osciller. Mais il y a une finalité éthico-politique, absolument.
C'est le vieux Sébastien, y a pas de mal à se faire du bien. La vie c'est du cinéma qu'on ne regarde qu'une fois. Pourquoi bouder son désir quand y a de la gêne, y a pas de plaisir. Moi je dis tout simplement, c'est beau la vie à 25 ans. Y a pas de mal. Toujours forcer ton cœur, tu passes à côté du meilleur.
Vous entendez Dany qui, après avoir chanté en 1968 « Papa vient d'épouser la bonne », qui était un pied de nez cocasse aux visions classiques du bien et du mal, chante « La vie à 25 ans, il n'y a pas de mal à se faire du bien » en 1974. Cette chanson devait être sélectionnée au concours de l'Eurovision. Ça a été annulé par la mort de Pompidou. Elle dit beaucoup de choses spinoziste, mais certainement pas la phrase « Pourquoi chercher à comprendre ?» Le fait qu'elle s'en moque, ça, ce n'est pas spinoziste du tout. C'était peut-être un peu inattendu de mettre Dany après Spinoza, mais ça marche. Merci beaucoup Pascal Gillot, merci Paul Ratot. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worm. Cette semaine, il interroge la notion de représentation. Il se demande ce que veut dire une représentation fidèle ou infidèle. Voici le pourquoi du comment. «
comment la représentation peut-elle être fidèle? On appelle représentation en philosophie et peut-être en fait dans la vie humaine en général, la transposition d'une réalité complexe dans le cadre de la perception humaine, maîtrisable au fond à l'image de la perception d'un objet devant nous, un objet isolé mais qui ici va représenter par exemple quelque chose de plus complexe que lui. Et la question qui se pose dans cette transposition, c'est celle de la fidélité du modèle réduit en quelque sorte de l'objet face à la réalité qu'il est censé incarner, représenter, à la fois pour la connaissance et pour l'action. Il y a donc des critères d'une représentation fidèle, disons, dans le domaine théorique. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle, par exemple, avec ses modèles, est une représentation du monde qui est si fidèle qu'elle est trompeuse et même simulatoire et qu'elle peut conduire à des dangers par un excès, peut-être, de fidélité. Oui, les chatbots, ces logiciels qui imitent quelqu'un avec qui nous parlons, qui ne répond pas à nos demandes d'une manière extérieure, comme par exemple Wikipédia, si nous lui demandons qu'est-ce que ceci ou cela, mais qui nous parle comme si c'était une personne, un robot qui parle. Bot, c'est le robot. Chat, c'est la conversation. Ainsi, nous avons l'impression de parler avec quelqu'un, mais ce n'est qu'une imitation, plus qu'une représentation, un leurre. Mais intéressons-nous un instant à la notion de représentation dans le domaine politique. La représentation politique, la représentation nationale, le gouvernement représentatif, comme dit Bernard Manin, récemment décédé dans son grand classique, Les principes du gouvernement représentatif. Qu'est-ce qui fait qu'une assemblée nationale doit avoir quelque chose de représentatif? Eh bien, justement, parce qu'elle est censée incarner la nation de manière démocratique, produire des décisions en notre nom. Elle doit donc avoir quelque chose qui soit fidèle à la société dans son ensemble. Cela est-il toujours le cas? Bernard Manin montre au contraire que dans les principes traditionnels du gouvernement représentatif, il y a toujours deux choses qui jouent. Il y a forcément une sélection des représentants. Comment cette sélection peut-elle être fidèle? Bernard Manin montre que cela n'a pas toujours été le premier principe du gouvernement représentatif. Il fallait au contraire, dans une vision primitivement aristocratique de la représentation, sélectionner les meilleurs. Ce sont les meilleurs d'entre nous qui devaient être élus pour nous représenter. Et cet aristocratisme de l'élection, finalement, est encore un peu présent. On veut avoir, en effet, les meilleurs députés, ceux qui représentent les meilleurs choix de la nation. Mais d'un autre côté, la représentation a pour première vertu d'être fidèle à la société, de l'incarner. Or, que faut-il incarner d'abord dans la représentation nationale? Est-ce que quelqu'un peut prétendre représenter le tout? Est-ce que quelqu'un peut prétendre être meilleur que les autres? Peut-être que le principe premier de fidélité politique dans la représentation nationale, c'est d'abord la représentativité de la diversité elle-même d'une société. Une société est précisément divisée. La démocratie prend le risque de représenter cette division dans une assemblée qui est certes unique, ou double, enfin en tout cas maîtrisable par une perception, comme c'est le cas de toute représentation, mais qui assume le fait de représenter la diversité elle-même. Ainsi, la représentativité n'est ni une copie, ni une sélection, mais d'abord une image de ce qui nous divise, qui nous permet aussi de transposer cette division du conflit possible en discussion et en progrès.
Merci Frédéric Worms et merci pour votre hommage à Bernard Manin, mort l'an dernier, penseur si fin des choses politiques. Mort il y a quelques mois, pardon. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast sur l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Timothée Hubert. Elle a été préparée en particulier par Anna Feulpin et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Carla Michel, Nassim El Kabli, Corinne Amar, Victoire Mellet. Vous êtes sur France Culture. Vive la curiosité.